Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Catherine Chalier. Catherine Chalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc philosophe, spécialiste du judaïsme, et nous avons la chance de vous recevoir autour de votre livre, donc « Le désir de conversion » paru au Seuil. Et vous regrettez dans l'introduction de ce livre que la philosophie ne prenne pas très au sérieux la spiritualité et le religieux. Et donc nous voudrions voir avec vous dans cette première émission, parce que nous en ferons une seconde sur Étienne Soum, la conversion, ou comment est-ce que Bergson a découvert, redécouvert, comment est-ce qu'il a effectivement compris cette figure de Dieu. Donc, commençons par le commencement. Donc, si on suit votre texte sur Bergson, en considérant qu'effectivement, Bergson, qui est d'origine juive, progressivement, par la philosophie, peut-on dire, découvre ce qu'il appelle, le sens de la durée, l'intuition, qui l'amène à découvrir, peut-être, cette figure de Dieu. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, comment est-ce que vers 1880, il opère une première conversion qui est une conversion à l'intuition ou au sens de la durée?
Oui, alors d'abord, peut-être préciser que Bergson naît dans une famille juive avec de lointains ancêtres chassidim du côté de sa famille paternelle, chassidim de Pologne, donc des mystiques, et du côté de sa mère, donc une famille juive également, anglaise. Mais n'a pas reçu d'éducation approfondie en ce qui concerne le judaïsme et n'en a parlé, pour ce qui le concerne de façon personnelle, que de façon fortuite jusqu'à la fin, où on verra pourquoi c'est très important. Et donc, il dit dans des entretiens qu'il a eus qu'au fond, dans sa jeunesse, il est devenu indifférent. Et il disait même que c'était pire que de l'athéisme, cette indifférence. Et là, il était très fasciné par les sciences. D'ailleurs, il avait hésité à faire des mathématiques. Son professeur était déçu même qu'il ne suive pas cette voie. Et il était très soucieux de la rigueur de la connaissance scientifique rationnelle. Et en particulier, ce qui le préoccupait déjà à cette époque, c'est une réflexion sur le temps, mais le temps tel que les scientifiques le voient, c'est-à-dire le temps physique, le temps abstrait. Et sa première conversion, puisque lui-même emploie ce terme en disant « je me suis converti moi-même », c'est lorsqu'il découvre la durée. Et il découvre la durée à la fois à l'extérieur de lui, dans la nature, dans tout ce qui vit, et à l'intérieur de lui-même. Et à ce moment-là, il a une très belle phrase pour parler de cette première conversion. Il dit « Jusqu'à présent, je vivais à l'extérieur de moi-même ». Et je trouve cette phrase très profonde parce que justement, c'est à partir de ce moment que se rejoint en lui la quête philosophique qui est toujours rigoureuse et extrêmement précise et qui le restera jusqu'à la fin, mais aussi un secret travail sur soi-même. Et vous avez prononcé le mot de spiritualité tout à l'heure en introduction de notre rencontre. On peut dire que c'est cela la spiritualité, c'est-à-dire comment penser que l'accès à la vérité nécessite également un travail sur soi-même. Et ça, beaucoup de philosophes font une séparation entre les deux et une approche purement scientifique, objective, du temps, lui semblait justement, j'allais dire, presque le mettre entre parenthèses.
Alors pour compléter ce que vous dites, vous indiquez dans le livre effectivement que cette conversion dont il parle est une conversion de l'intelligence, dit-il, à l'intuition. Donc il s'approche au plus près effectivement de ce quelque chose de nouveau, d'imprévisible, qui est au cœur de la durée vivante. Et quant à la force spirituelle, il dit que c'est une capacité à tirer d'elle-même plus qu'elle ne contient. Alors, deuxième moment, semble-t-il, dans cette conversion ou dans cette évolution intellectuelle et spirituelle de Bergson, apparaît à un certain moment, en 1907, Dieu, enfin, ou du moins ce qu'il définit comme Dieu. Et je me permets de lire ce passage que je vous inviterai à commenter. « Je parle d'un centre, donc évolution créatrice 1907, je parle d'un centre d'où les mondes jailliraient comme les fusées d'un immense bouquet, pourvu que je ne donne pas ce centre pour une chose, mais pour une continuité de jaillissement. Dieu, ainsi défini, n'a rien de tout fait, il est vie incessante, action, liberté. Alors comment faut-il comprendre ce texte de 1907 ?
Alors il faut le comprendre, ce texte, je crois, en liaison avec ce que nous disions tout à l'heure sur sa découverte de la durée qui est créatrice. Donc, lorsque Bergson emploie le mot de création, il ne le doit pas du tout à une lecture de la Bible qui parle de la création du monde. Il découvre cette création, c'est-à-dire l'apparition du nouveau dans le devenir. Et l'apparition du nouveau dans le devenir, c'est aussi l'apparition, comme vous l'avez dit à l'instant, de quelque chose de supérieur à partir de quelque chose d'inférieur. Et donc, il va nommer énergie spirituelle, force spirituelle, cette force créatrice qui fait apparaître justement des nouveautés. Alors, le livre dont vous parlez, L'évolution créatrice, raconte, rapporte toute la description de l'évolution des espèces. Bon, il faut aussi se rappeler qu'on est dans une époque où le darwinisme, les découvertes de Lamarck sont très importantes et donc ça fait aussi partie de tout un ensemble de réflexions sur les données de la biologie, sur les données de l'évolution. Mais Bergson récuse les explications mécanistes, comme il récuse également les explications trop étroitement finalistes. Et donc il voit, c'est le texte que vous avez cité à l'instant, cette durée créatrice comme ayant en son centre un point qu'il nomme Dieu, et c'est un apax dans le livre, c'est la première fois et la seule fois qu'il le nomme, un point qu'il nomme Dieu et qui est la source de cette création. Mais j'insiste aussi sur un point, c'est que cette source qu'il découvre et qu'il nomme Dieu, il la découvre donc dans la création à l'extérieur de lui, mais il la découvre aussi en lui-même. C'est-à-dire il y a toujours ce double mouvement, ce qu'il découvre dans la nature et ce qu'il découvre en lui-même. Et en lui-même, cette source créatrice, elle est liée à la liberté. Bergson, c'est un grand penseur de la liberté, et la liberté justement comme cette capacité de décider, de faire apparaître du nouveau, et aussi, il insiste beaucoup sur cela, sur la possibilité de donner une émotion de joie. C'est un point très important.
Alors, ce qui est très important, c'est que cette liberté dont vous parlez, et dont parle Bergson, ne l'enferme pas dans une religion particulière. On a l'impression qu'il y a une forme de religiosité naturelle qu'il découvre, sans théologie, sans ce corpus de la théologie, et comment est-ce qu'on peut définir cette religiosité-là qui n'appartient pas à une religion particulière, qui n'appartient pas à un corpus particulier et qui, à ce moment-là, donc en 1907, et ça va durer quelques années, reste, disons, désengagée ou séparée de toute religion instituée, que cette religion soit la religion juive, celle de ses ancêtres, ou la religion catholique vers laquelle il va progressivement évoluer.
Oui, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas du tout lié à une lecture de la Bible qu'il méditerait. Encore qu'on peut trouver, mais je ne dis pas du tout qu'il a pensé à ça lui-même, mais l'expression, justement, la vie des mondes, c'est une expression que l'on trouve dans la tradition juive. Dieu comme vie des mondes, Chae Haolamim. Donc il y a des réminiscences, peut-être, mais je n'en suis pas sûre. Ça, c'est moi qui le dis. Je vois une correspondance entre les deux, donc je ne sais pas si c'était présent chez Bergson, en tous les cas, mais c'est en effet pas du tout lié à une méditation ni théologique ni interprétative des textes de la Bible. C'est vraiment un chemin philosophique de conversion, mais un chemin philosophique qui le conduit à découvrir Dieu, non pas comme extérieur au monde qu'il aurait créé et ce monde se déploierait, mais comme au plus intime du monde, comme au plus intime de soi, et comme une source justement qui donne de se relever quand on est tombé et qui donne de cette capacité qu'il nomme spirituelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire apparaître du plus à partir du moins.
Donc on est toujours dans l'élan créateur, on est toujours dans la conversion qui est effectivement une confiance à l'égard de cet élan créateur. Alors, autre moment de l'évolution, de la conversion de Bergson, 1932, les deux sources de la morale et de la religion. Et il semble qu'à ce moment-là, Bergson, d'un point de vue philosophique, et vous me reprenez si je me trompe, semble mettre en avant un avantage particulier du christianisme qui réalise pleinement ce qu'il appelle un progrès, c'est-à-dire qu'on passe du clos, c'est-à-dire la justice d'Israël, à l'ouvert, la justice pour tous. Et donc, seul, dit-il, le christianisme permet de mettre en avant l'idée d'une fraternité humaine. Alors, est-ce que vous pouvez mieux nous faire comprendre ce moment-là où, effectivement, à la fois est mise en avant, presque à titre comparatif, la religion chrétienne par rapport à la religion juive et par rapport au judaïsme, et puis, qu'en est-il en 1932 de sa foi personnelle ou de son évolution personnelle ? Est-ce que c'est uniquement une conversion ou un avantage comparatif philosophique, ou est-ce que lui-même, en lui-même, est déjà sur la voie du christianisme ?
Alors, il faut noter qu'il y a un grand nombre d'années qui séparent l'évolution créatrice de ce livre auquel vous faites allusion maintenant, c'est-à-dire les deux sources de la morale et de la religion. Donc, dans l'évolution créatrice, nous en étions restés à une confiance de Bergson dans cette générosité première, c'est une expression qu'il emploie, cette générosité première à l'œuvre qui se manifeste. Et puis, ensuite, il a consacré de nombreuses années, des dizaines d'années, à se tourner vers la religion. Et en particulier, donc, il a lu la Bible, bien sûr, enfin, qu'il devait déjà connaître, et puis les mystiques chrétiens. Alors, sa lecture de la Bible, lorsqu'il parle du judaïsme, c'est une lecture, au fond, très traditionnelle à l'époque, c'est-à-dire le christianisme de l'époque, le christianisme qui a été jusqu'au Concile, d'une certaine façon, c'était un christianisme qui ne voyait dans le judaïsme qu'une préparation au christianisme et qui ignorait, et Bergson ignorait absolument cela, qui ignorait toute la tradition des commentaires juifs qui, du point de vue juif, donne seul un sens à la Bible juive. Donc ça, Bergson, comme tous les juifs non éduqués dans la religion de leurs ancêtres à cette époque-là, l'ignorait, ça n'existait pas. Et donc, je dirais quand même, il a une vision positive du judaïsme, en ce sens qu'il rend un grand hommage aux prophètes juifs. C'est très positif ce qu'il dit sur les prophètes juifs, de leur appel à la justice, de leur voix que l'on entend encore résonner. Mais, comme vous l'avez bien remarqué, il pense que le christianisme permet de passer, et c'est pas original de dire ça, d'une religion qui était liée à un peuple à une religion qui vise l'universalité. Et c'est aussi cette différence entre le clos et l'ouvert que vous avez mentionné. Maintenant, du christianisme, qu'est-ce qu'il dit exactement dans ce livre ? Au fond, il ne cite pas beaucoup de textes. Il cite le Christ des évangiles, mais c'est exclusivement le passage du sermon sur la montagne, et il n'en fait pas non plus une exégèse extrêmement développée. Mais qu'est-ce qu'il voit en lui ? Et là, il y a un lien avec le livre précédent dont nous avons parlé. Il voit en lui cette évolution créatrice qui, sur le plan donc de la foi, sur le plan de la religion, a été le plus loin possible. Et pour lui, c'est l'exemple maximal de ce qu'un homme peut espérer dans son humanité spirituelle. Et alors, il lit beaucoup les mystiques.
Saint Jean de la Croix,
enfin les mystiques espagnols. Il médite beaucoup les mystiques. Et il voit dans les mystiques également ceux qui ont conduit l'évolution humaine à leur degré suprême, et le Christ des évangiles étant le plus loin dans ce chemin. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il en était de lui-même par rapport à ça ? Bergson, c'est toujours un philosophe qui voulait s'appuyer sur l'expérience. Or, ici, il s'appuie sur l'expérience d'autres que lui-même, à savoir les mystiques, mais il dit « nous pouvons pressentir en nous cette expérience ». Et donc, sans forcer l'intimité de Bergson, qui ne nous appartient pas, on peut malgré tout penser qu'il a senti dans sa lecture des mystiques juifs, il a perçu une pensée, et aussi j'ai dit senti parce que c'est aussi émotionnel, une pensée qui venait toucher en lui une dimension très très profonde de son être. Et ce n'est pas très longtemps après qu'il a écrit son testament dans lequel il disait qu'il se serait converti au christianisme.
Absolument. Donc il y a chez lui, semble-t-il, la reconnaissance, alors philosophique, personnelle, peut-être les deux, à la fois d'une fraternité universelle permise par le christianisme et que ne permet pas, enfin, dit-il, le judaïsme, et puis un équilibre entre l'intime et l'universel. Et cet équilibre-là, à la fois le sermon sur la montagne, l'ouverture, la fraternité, l'amour, et à la fois cet équilibre entre l'intime et l'universel qui donne, je prends cette expression qui n'est pas très belle, mais enfin, un avantage comparatif de la religion chrétienne par rapport au judaïsme très fort. Voilà. Alors, venons-en, effectivement, et j'aimerais bien lire ce texte-là. Donc, en 1937, il écrit dans son testament qui ne sera connu que partiellement au moment de sa mort, en 1941. je lis ce texte et si vous pouvez effectivement le commenter. Donc, 1937, il écrit « Mes réflexions m'ont amené », donc on est les deux sources de la morale, la religion, et 1932, donc on est quelques années après, « Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme où je vois l'achèvement complet du judaïsme. Je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années, et la parenthèse qui suit a été supprimée et a été rétablie depuis lors, en grande partie, hélas, par la faute d'un certain nombre de juifs entièrement dépourvus de sens moral, la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés. Mais j'espère qu'un prêtre catholique voudra bien, si le cardinal archevêque de Paris l'y autorise, venir dire des prières à mes obsèques. Au cas où cette autorisation ne serait pas accordée, il faudrait s'adresser à un rabbin, mais sans lui cacher et sans cacher à personne mon adhésion morale au catholicisme, ainsi que le désir exprimé par moi d'abord d'avoir les prières d'un prêtre catholique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte-là ? Il y a à la fois une adhésion morale, personnelle, et à la fois une fidélité à ce peuple juif qui est à la fois le sien et à la fois qui n'est pas le sien, enfin, au sens où il n'est pas d'adhésion religieuse, mais effectivement par fidélité à ce peuple, Bergson donc souhaite cacher cette conversion pour être fidèle donc au Dieu de ses ancêtres ou au peuple qui est le sien.
Ce peuple, c'est le sien. Il n'a jamais dit le contraire. On peut souvent trouver dans d'autres moments de son existence des réflexions où il parle des Juifs en disant « nous ». Donc ça, jamais il n'a renié ce peuple. Là, dans ce testament, en effet, on voit qu'il est tout près de demander le baptême, mais ce pas, il ne le fera pas. Or, c'est un pas important, parce qu'une conversion morale, c'est une chose, une conversion qui inscrit dans l'extériorité la conversion, c'est différent, ça donne une concrétude. Bon. Alors, ce pas, il ne le franchit pas, pas pour des raisons théologiques, encore qu'il ne se soit jamais vraiment intéressé de près aux dogmes théologiques dans des discussions qu'il a pu avoir avec les uns ou les autres et que j'ai pu lire, on voit que bon, il a quelques réserves sur des dogmes qui lui semblent un peu difficiles. Mais ce pas, il ne le franchit pas parce qu'il veut rester avec son peuple, celui de ses ancêtres, qu'il n'a jamais renié, ce peuple qui, il le sait, va être persécuté et il ne voudrait pas que sa conversion par le baptême, donc qui serait une conversion publique que tout le monde connaîtrait, soit interprétée comme une trahison et soit une trahison. Lui-même pense que c'est une trahison. Alors sur la parenthèse qui avait été omise lors de la diffusion du testament, c'est-à-dire sa femme avait laissé cette parenthèse dans laquelle il semble dire « bon, les Juifs sont aussi responsables de ce qui leur arrive ». Alors là, il y a plusieurs hypothèses, mais une qui semble la plus convaincante, c'est qu'il pensait aux Juifs qui aux Juifs communistes qui étaient dans les mouvements bolcheviques et que c'était à eux qu'il pensait lorsqu'il disait ça, ce qui était d'ailleurs une opinion qui était assez répandue dans les milieux de droite surtout à l'époque. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit bien que ce n'est pas une question justement d'affinité élective. Il ne dit pas que je les aime, il ne dit pas ça, mais on ne peut pas déserter ce peuple. Je ne peux pas déserter ce peuple et donc je lui reste fidèle.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est que vous dites effectivement que Bergson a conscience d'appartenir au peuple juif, mais alors quand on replace ça dans l'histoire, on voit que ce pauvre Bergson a été l'objet d'attaques antisémites abominables de la part de l'Action française en particulier, de Daudet en particulier, au moment de son élection à l'Académie française, et que donc il y avait ce renvoi de Bergson à sa judaïté plus forte peut-être par cet antisémitisme abominable, plus forte peut-être que le sentiment qu'il avait lui-même d'appartenir. Et donc peut-être que ce testament de 37 renvoie à toutes ces campagnes.
C'est possible, bien sûr, ça a sûrement joué un rôle, mais je ne pense pas simplement que Bergson se sentait juif à cause de l'antisémitisme, parce qu'il avait malgré tout beaucoup, beaucoup d'affection pour sa mère qui était juive et qui était une femme croyante, bon, dans un sens un peu imprécis, mais qui l'était. Et donc, je pense qu'il y a un réel attachement à ses ancêtres et qui vont être persécutés. Donc, je crois qu'il faut aussi contrebalancer par ça et se rappeler malgré tout aussi que dans les deux sources, il dit des choses très belles sur les prophètes.
Et donc on peut dire, et ça sera notre dernier mot, que la conversion de Bergson est d'abord philosophique et ensuite personnelle.
Oui, elle est philosophique et elle est personnelle aussi. Mais lorsqu'elle est purement philosophique, tout au début, elle est déjà spirituelle, c'est-à-dire liée à tout un travail sur lui-même. Et elle devient en effet personnelle, un engagement dans une religion précise cette fois. Ce n'est plus la religiosité naturelle de l'évolution créatrice, donc catholique, c'est très précis. Donc à la fin de sa vie, et là, on aboutit à une religion extrêmement très précise qui lui semble la vérité de ce qu'il a cherché toute sa vie.
Alors dites-nous un mot, parce que vous n'en parlez pas dans le livre, mais comment s'est passé effectivement les cérémonies autour de sa mort, enfin, est-ce qu'il a effectivement reçu ses prières catholiques telles qu'il le souhaitait lui-même?
Je ne pense pas, non.
Non. Très bien. Écoutez, Catherine Chaly, merci beaucoup pour cet éclairage sur cette conversion du philosophe Henri Bergson, qui est devenu effectivement une conversion personnelle. Et je renvoie donc nos auditeurs à un deuxième entretien que nous aurons sur Étienne Soum. Catherine Chaly, merci bien.
Merci.